Bonjour, je vais vous faire une confidence ce matin. Vous chantez bien. Je vous ai écouté chanter ce matin, ça m'a fait du bien. Ce matin, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Du moins, ouais, ça fait quand même 20 ans que je suis parmi vous. J'ai rarement donné le même message, pas la même année, mais en peu de temps. Je vous explique le pourquoi du comment. Un peu avant Noël, j'ai eu un thème très à cœur, c'est celui sur le péché. Et j'étais rempli de ce message, et puis j'ai pas su attendre le début de l'année pour faire une suite, en fait, de messages sur ce thème. C'est un thème qui nous touche en profondeur, et je crois que ça vaut la peine de l'étudier en profondeur. C'est pour ça que je me suis lancé, et puis il est venu toute la période de Noël, où on a changé de thème, et puis le début de l'année. Et voilà, j'avais à cœur quand même de vous redonner mot à mot, parce que voilà, il y a des choses qu'on répète parfois, et puis le fait de le répéter, on voit peut-être un autre angle, il y a quelque chose, un autre aspect qui nous touche, et ce matin, je suis persuadé que vous allez certainement recevoir quelque chose, même s'il y a environ 2 mois, donc ce message a déjà été transmis. Alors pour ça, j'aimerais d'abord lire quelques passages dans la parole de Dieu. Le premier se trouve dans le prophète Jérémie au chapitre 3, verset 12, « Et l'Éternel me dit, va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. » Un autre passage se trouve dans l'évangile de Jean et c'est Jésus qui parle au chapitre 14, à partir du verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure à côté de chez lui. » Ah non. Ah bon, vous êtes bien là, hein? « Et nous ferons notre demeure chez lui. » Quand on y pense quelques instants, ça nous fait tourner la tête. Imaginez que le Père et le Fils font leur demeure en nous, en toi. Moi, c'est quelque chose qui, même après 40 ans de vie chrétienne, me dépasse. Mais c'est la réalité. Et enfin, ce passage dans Romains, au chapitre 8, verset 31, qui nous dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Quel est le plus grand fléau ou les plus grands fléaux qui ont atteint la terre ces dernières décennies, ces derniers siècles ? De quoi est-ce qu'on se rappelle aujourd'hui? Les grands fléaux qui ont touché la terre. Les guerres, hein, 2 guerres mondiales, le siècle passé. Ebola, des pestes, tsunamis, les tremblements de terre, le sida, les attentats. Et parmi eux, quel est le plus grand? Ou quel est le plus grand fléau qui touche l'humanité, toute l'humanité? Ah, vous avez quand même retenu quelque chose, c'est magnifique. Le plus grand fléau qui touche l'ensemble de l'humanité, c'est le péché. Et c'est vrai que les hommes cherchent des moyens d'enrayer tous ces fléaux. On voit des choses incroyables qui se passent aujourd'hui dans certains pays pour arrêter la montée des eaux, par exemple, ou pour arrêter des épidémies. On investit des millions et des milliards. Des savants, des chercheurs, des politiciens, des ingénieurs essayent de trouver les bons moyens. Rien que pour une maladie. Les grandes firmes pharmaceutiques, bien sûr qu'elles sont intéressées financièrement, mais investissent des milliards pour trouver un médicament qui va pouvoir enrayer un de ces fléaux. Mais le plus grand, c'est vrai, c'est le péché. Le péché est une arme de destruction massive. Le péché est une arme de destruction massive. Il est répandu dans toutes les couches de la société. Aucune race, aucune ethnie, rien, personne n'est exempt. C'est une vérité universelle. Il n'y a pas un seul endroit, parce que s'il existait, tout le monde aimerait aller vivre là-bas, où tous les gens sont honnêtes, où il n'y a pas de maladie, où il y a de la justice, où règne la paix. Tout le monde aimerait aller vivre dans cet endroit-là. Et si l'être humain est intelligent quand même, et qu'il est capable, avec son intelligence, son savoir, son ingéniosité, d'arrêter certains de ces fléaux, il ne peut rien contre le péché. Et j'y pensais encore l'autre jour, je me disais, mais c'est incroyable, on est capable aujourd'hui de rassembler tous les grands du monde entier, des gens très intelligents, on fait des conférences mondiales qui rassemblent des représentants de tous les pays du monde pour parler sur le fléau des réfugiés, sur le fléau de la maladie, sur le fléau de l'écologie, sur le fléau de la faim, mais on n'arrive pas à faire une conférence mondiale contre le péché. Imaginez si tous les grands de ce monde se rassemblaient pour prendre enfin à cœur ce problème-là. C'est le problème majeur de notre société et de toute l'humanité dans toute son histoire. Alors, ça serait intéressant peut-être de lancer l'initiative. Une grande conférence mondiale contre le péché, avec le groupe de louanges pour entraîner l'assemblée. Hein? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la Bible. Parce que la Bible, elle attaque de front, elle regarde le péché dans les yeux. Elle le prend à bras le corps. Pas le péché, le thème. Elle le prend à bras le corps, elle le regarde en face, droit dans les yeux. Les 66 livres de la Bible sont là pour nous parler de ce problème. Mais pas seulement de ce problème, parce qu'on en est conscient. Tout le monde est conscient que quelque chose ne va pas. Pas plus tard que mercredi, bon, j'étais chez le dentiste, j'ai dû me faire arracher une dent, j'ai retrouvé mon poids de forme depuis, c'est super. Mais j'avais en face de moi une femme qui était découragée, l'assistante du dentiste. Et puis on attendait son chef, elle me disait, le chef, il ne vient pas, j'ai attendu 25 minutes assis sur cette chaise. Et puis on a commencé de parler des problèmes de ce monde. Puis j'ai dit, mais de où ça vient tout ça, tous ces problèmes? Ah ben j'ai dit, écoutez, moi je crois que ça vient du péché. Oh, le péché! Non, alors ne commencez pas avec ça. Ne commencez pas de me parler. J'ai dit, mais écoutez, c'est une des probabilités, non? Il faut une fois le regarder. Les gens ne veulent pas regarder le péché en face. On tourne le dos au péché. On fait comme si de rien n'était. On fait comme s'il n'existait pas. Rien que de prononcer le mot péché, les gens, ils attrapent des petits boutons. Oh, c'est vrai que c'est plus un mot à la mode. Mais c'est un mot. Et il existe. Et moi, j'aime la Bible. Elle nous parle de ce problème. Mais pas seulement de ce problème. Elle nous dit comment nous en sortir. Et c'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Alors, on va lire ce passage qui, pour moi, est absolument fondamental. Il est tellement instructif et il se trouve à la genèse de l'histoire du péché. Alors, bien sûr, s'il se trouve à la genèse de l'histoire du péché, il se trouve dans la Genèse, et tout au début de la Genèse. Et on voit que Dieu, immédiatement après la chute, ou quelque temps après, c'est pas noté la date, mais essaye de sensibiliser l'humanité au travers de Caïn et d'Abel à cette réalité-là. Et j'aimerais relire avec vous ce passage dans Genèse 4 à partir du verset 1. Et vous trouvez des perles là-dedans. Tout au début, on voit que Dieu nous prend au sérieux la chose. Et on le verra au travers du message. Essaye de nous faire comprendre l'essentiel. Donc, Genèse au chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Mais certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Premier point que j'aimerais souligner au travers de ce récit, c'est que le péché est une réalité. Et que cette réalité, il faut une fois la regarder en face. Il est dit dans ce passage, le péché couche à ta porte, c'est aussi traduit le péché et le démon à ta porte. Il y a bien une porte, mais derrière la porte, il y a quelque chose. Et le texte nous dit le démon à ta porte. Mais c'est quoi le péché? L'apôtre Paul, dans son épître, le présente comme une puissance personnifiée qui parfois pourrait se confondre avec Satan. Mais le péché n'est pas Satan. Il s'en distingue. Le péché est un principe actif. Vous savez ce que c'est, les dames, hein, principe actif? Quand vous achetez votre poudre à lessive et que vous voulez traiter du linge sale, vous mettez une poudre dans laquelle il y a des principes actifs qui vont séparer ce qui est propre de ce qui n'est pas propre. Et ça va faire un effet sur votre linge. Je ne vais pas faire de réclame pour une marque particulière. Mais ce qui fait la différence, s'il n'y avait pas de principe actif dans la lessive, ben votre linge serait à moitié propre ou pas propre du tout. Donc le principe du péché, c'est de s'enclencher à un moment donné dans la vie de l'être humain. Et comment est-ce qu'il peut s'enclencher? Il s'enclenche au travers de la désobéissance. À partir du moment où je désobéis volontairement à Dieu, alors qu'il m'avait donné les conseils nécessaires pour vivre la vie qu'il avait imaginée, le péché entre dans l'humanité. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Et la désobéissance souvent conduit à la révolte et à la rébellion. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, nous dit « Vous étiez tous de leur nombre. » Quel nombre? De ceux qui sont des fils de la rébellion. Il y a quelque chose dans la nature humaine. Alors, bien sûr, pour moi, c'est un mystère pourquoi le péché d'Adam et Ève s'est transmis au travers de toute l'humanité. Mais la réalité, elle est là. Donc, plutôt que de se poser 100 000 questions pour savoir pourquoi ça s'est transmis, moi, j'aimerais plutôt savoir comment je peux arrêter la chose. Ok? Parce que je ne vais pas trouver la réponse. Il y a un mystère derrière tout ça. Pourquoi Dieu a permis que la faute d'un seul homme engendre une humanité pécheresse, avec une nature de péché, qui produit des péchés. Donc, le principe actif va commencer d'agir dès l'instant où je désobéis volontairement à Dieu. Et ça m'amène dans une révolte, ça m'amène dans la rébellion. Et en faisant cela, l'homme pêche, c'est-à-dire qu'il manque la cible. Dieu avait mis une magnifique cible, réussir sa vie. Dieu donnait à l'homme tous les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Et l'homme se contente de tirer à côté de la cible. Tout le monde sait qu'il pourrait réussir sa vie, n'est-ce pas? Tout le monde. Mais tellement de gens passent à côté de la cible. Je passe à côté de la cible. C'est ce qu'a fait Satan avant la création même de l'être humain. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Lucifer était une partie des anges. Avant la création de l'être humain, c'est rebeller contre Dieu. Il y a eu quelque chose qui dépasse l'entendement. Dieu, en créant des êtres libres, leur donne aussi la capacité de dire non. On n'est pas des marionnettes à fil que Dieu dirige selon son bon vouloir. Dieu veut que nous vivions selon son bon vouloir de tout notre cœur, pas comme des automates. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile à comprendre, parce que c'est vrai que si Dieu mettait tout le monde au pas, ben ça marcherait. Mais ça ne serait pas tellement agréable, n'est-ce pas? Quand on voit dans les pays à forte dictature, comme la Corée du Nord, où tout le monde doit marcher au pas, je ne sais pas si c'est vraiment la vie. Hein. Donc, Dieu va permettre que, d'une manière mystérieuse, que cette désobéissance dans le monde angélique ait des répercussions dans l'humanité, dans la société humaine. Romains 5, 12 nous dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Avec comme conséquence la ruine morale et physique de la race humaine. Romains 3, 23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous. Je peux me mettre à l'intérieur de ce tous. Donc, il y a un principe actif qui concerne tous les hommes. Quand je dis tous les hommes, c'est toute l'humanité, n'est-ce pas? Et puis, on voit aussi que le péché n'est pas seulement un principe actif, mais qu'il est une puissance. Le péché est une puissance et il a un pouvoir en lui-même, celui de corrompre la nature et de la tenir éloignée de Dieu. Car tous ont péché, ok, mais le problème c'est que ils sont privés de la gloire de Dieu. Dire de la gloire, c'est en même temps la puissance, c'est la présence, c'est le poids que Dieu peut mettre dans ma vie. Si je n'ai pas le poids de Dieu dans ma vie, alors ma vie est vraiment légère. Et on sait qu'elle peut tanguer sur les eaux de ce monde. Parfois, il y a des eaux calmes, parfois, il y a des tempêtes. Mais on est un petit peu comme des coques de noix sur la mer de ce monde. On ne tient pas longtemps. Donc, le péché est une puissance capable de nous corrompre, capable de faire une œuvre en nous. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il nous donne la force, la capacité, le pouvoir de vivre de manière indépendante. On est tous des petits dieux. Je peux décider ce que je veux pour ma vie. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, quand les enfants grandissent, ils sont soumis jusqu'à quoi, 3 ans, non, 4 ans, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas, il y en a plus calmes que d'autres. Mais à un moment donné, quelque chose en eux, alors bon, ça fait partie, hein, bien sûr, il doit se séparer de la mère, des parents, vivre sa propre vie. Mais souvent, c'est dans un état de rébellion. Et c'est vraiment difficile pour les parents. Hein. Vous qui avez eu des enfants, vous savez de quoi je parle. Donc, le péché a une puissance. Il a la capacité, de vivre de manière indépendante. Il m'autorise à être libre. Si je n'étais pas dans le péché, mon seul désir, ça serait d'être dans la présence de Dieu. Ça serait de vivre les projets de Dieu. Ça serait de connaître les pensées de Dieu. Mais parce que je suis libre, parce que je me crois être un petit Dieu, eh bien, je m'autorise ces choses-là. Et il me donne le sentiment ou l'illusion d'y parvenir. Moi, j'ai rencontré des gens, ils étaient dans l'euphorie absolue. Ils avaient décroché un boulot extraordinaire avec une paye, 14 salaires par année, un endroit de rêve, une ambiance magnifique et tout. On avait l'impression, voilà. Et ils commençaient de vivre la grande vie. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, plouf, hein, la boîte ferme, licenciement et tout. Ces gens-là ne sont plus rien. Ils ne sont que par la puissance des choses qui étaient en eux, avec eux ou autour d'eux. Et on voit qu'ils n'y peuvent rien. Au moment où c'est la plongée, ben, ils coulent à pic. Hein. Donc, cette puissance nous donne de ne pas nous soumettre à Dieu. C'est un choix que je peux faire, c'est incroyable quand même. Là, je peux décider que non, Dieu, ça ne m'intéresse pas. Non, non, Dieu, je n'en ai pas besoin. Dieu, il n'existe pas. Dieu, c'est incroyable. La légèreté avec laquelle je peux vivre la chose. Et puis, il y a quelque chose de jouissif dans le péché. Parce qu'il te donne la capacité de désobéir, de braver l'interdit. Il y a des gens qui aiment ça. L'autre soir, il y avait une émission, je n'ai pas regardé longtemps, mais une émission sur les chauffards, sur les routes, hein, sur les autoroutes. Oh, 220 à l'heure, bon, peut-être à 3 heures du matin, il n'y a pas... Mais c'est jouissif de voir l'aiguille monter, 80, 90, 110, 140, 160, 200, 220, 250, encore faut-il avoir une voiture qui va si vite. Mais il y a quelque chose là, ça vous prend aux tripes. Hein? Désobéir à ses parents. Vous vous rappelez la première fois que vous avez désobéi à vos parents? Tu rentres à 11h, hein? Moi je veux que tu sois à la maison à 11h. Oui maman. 11h, oh maman, allez on s'amuse avec les... Puis après on passe la moitié de la nuit. Il y a un moment quand on rentre, elle est dans tous ses états parce qu'elle était persuadée qu'on s'était fait enlever, qu'on s'était fait, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose de jouissif. Tromper le fisc. Qui c'est qui a trompé le fisc? Levez la main. Ah non, il n'y en a pas ici. Mais vous avez vu, tous ces derniers mois, ces gens qui en ont plein les poches, mais plein les poches, ils ne savent plus quoi faire avec l'argent, mais non, hein, il faut encore cacher quelques millions au fisc. C'est jouissif. Ça provoque quelque chose là dans les tripes, là dans je ne sais pas où, quelque part. Hein? Et puis tromper son conjoint aujourd'hui. Tromper son conjoint. C'est magnifique. Non? Non, mais c'est de la folie. De discuter avec des gens, on pourrait croire que c'est le sport national maintenant. Champion du monde. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on brave l'interdit. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui dit non, fais le pas. Puis il y a quelque chose qui dit mais si, vas-y, tu vas vivre un moment, je te dis. Hein, 3 minutes 30 de bonheur. Puis après, des dizaines d'années de malheur. Mais on ne l'entend pas, ça. Mais ça, c'est la réalité. Vous êtes d'accord ou bien? Donc on peut arriver à aimer le péché. On peut arriver à aimer le péché pour ce qu'il me procure. Mais le problème, c'est que le péché n'est pas neutre. Vous savez que le péché n'est pas suisse? Le péché n'est pas neutre. Le problème, c'est que le péché a des alliés de taille qui entrent en jeu alors qu'on ne les attendait pas. Quand on est dans l'euphorie, quand on se permet de braver, quand on se permet d'aller au-delà, de désobéir, quand on se permet de tromper, on est dans l'euphorie du moment. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en train d'ouvrir des portes, des grandes portes, à un monde spirituel en rébellion contre Dieu, qui n'attendait que ça. Waouh ! Maintenant on peut y aller. Maintenant on peut mettre le paquet. Maintenant il nous a ouvert les portes. Et des alliés de taille, je vous le dis. Alors que je crois maîtriser, combien de gens ont cru maîtriser la situation et ils sont partis en vrille quelque temps plus tard. Parce qu'ils n'étaient pas maîtres de la situation. Si j'aime le péché, je veux m'attirer les sympathies d'un monde spirituel invisible, bien sûr, mais en rébellion contre Dieu. Et la Bible, et c'est pas pour rien, en Éphésiens 6, 12, nous parle et nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la Bible? C'est qu'il y a tout un monde spirituel des esprits qui n'ont pas de corps comme nous. Vous êtes aussi un esprit, mais vous avez un corps et vous vivez dans votre corps. Des esprits qui sont là, prêts à sauter dans l'occasion, prêts à sauter dans la brèche, prêts à faire leur œuvre. Et c'est ce que nous voyons dans ce terrible récit de Caïn. Alors que Caïn ne peut pas réfréner sa révolte de ne pas avoir été accueilli, pardon, en tout cas son offrande, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'extrême. Le démon couche à ta porte, mais si tu laisses la porte un tant soit peu entrouverte, il ne va pas se faire faute d'entrer. Et quand il entre, il peut t'entraîner à l'extrême. Jésus a dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il est le père du mensonge. Il est meurtrier dès le commencement. C'est quand même pas rien ça. Et quand il entre, il est capable de vous entraîner jusqu'au meurtre. Et c'est ce qui va se passer. Caïn entre dans une spirale infernale et il va être conduit à tuer son frère Abel. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que là, ce n'est pas très encourageant tout ce que je vous ai dit, hein, franchement. Là. Et ça, pour moi, c'est la révélation de ce récit. Quand on comprend ce qui se passe dans ce récit, on peut entrer dans la réalité de la vie en Dieu avec espérance, avec une force incroyable. Nous ne sommes pas seuls face au péché. Ça, c'est vraiment l'évangile de ce récit de Genèse 4.1. Tu n'es pas seul face au péché. Amen. Dans ce récit dramatique, nous découvrons que Caïn aurait pu agir différemment. Il n'était pas seul face à ce fléau. Il n'était pas seul face au péché. Alors que Caïn est confronté au péché qui couche à sa porte, nous découvrons dans ce récit la présence même de Dieu. Alors que, voilà, ils sont séparés de Dieu. Le péché originel a eu lieu. Ils ne sont plus dans une atmosphère du paradis, du jardin d'Éden. Ils sont en dehors. Et il y a des chérubins qui gardent l'entrée. On n'entre pas. Et pourtant, malgré cela, Dieu se révèle à Caïn. Nous découvrons cette présence de Dieu qui s'adresse directement à lui. Caïn n'était pas programmé ou contraint à agir de la sorte. Et Dieu va lui parler comme un père à son enfant. Mais relisez, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, Caïn? Mais pourquoi ton visage est-il abattu? Écoute, Caïn, si tu agis bien, ben tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, ben voilà, le péché couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, Caïn, domine sur lui. C'est Dieu qui le lui dit. C'est pas un ange qui a été envoyé. C'est pas un prophète qui est par là. C'est Dieu lui-même qui parle à Caïn, tout au début de l'histoire du péché dans l'humanité. Et moi, je trouve cela extraordinaire. Un père qui utilise les circonstances, non pas pour écraser, non pas pour accuser, non pas pour rejeter, non pas pour brimer, mais pour enseigner, pour reprendre, pour exhorter, pour corriger. Si ta vision du père est faussée, reprends ce texte. Reprends ce texte. Tout au début de l'histoire de l'humanité, Dieu se révèle comme un père. Je ne vois pas un Dieu qui est en train de... Hein? Je peux utiliser le mot, mais... Dieu lui parle comme un père à son enfant. Et à ce moment-là, le destin de Caïn aurait pu basculer du bon côté. Il était sur la tranche, mais... Si j'avais écouté... Hein? Et combien de fois on s'est dit la même chose? Oh mince! Si j'avais écouté. Si j'avais écouté mon père, si j'avais écouté ma mère, si j'avais écouté mon professeur, si j'avais écouté mon ami, pouf, Caïn n'était pas destiné à cela. Certes, c'est vrai, Caïn n'a pas fait juste, n'est-ce pas? Et ce texte nous le révèle. Caïn n'a pas fait juste en voulant s'approcher de Dieu au travers de l'offrande qu'il apporte. Mais Dieu ne l'accuse pas, il ne le rejette pas. Il essaye de lui faire comprendre ce qu'il n'a pas fait juste. Et là aussi, vous avez déjà vu les réactions très diverses des enfants ou des adultes aussi. On dit à quelqu'un, non, t'as pas fait juste. Boum, le masque. Il vous en veut, il vous tire la tranche, il vous salue plus, il vous évite. Puis d'autres, ah ouais, c'est sympa, ah ben merci, ah c'est comme ça qu'il faut faire, ah ouais, ça c'est intéressant, j'y avais pas pensé. Et Dieu lui dit, Caïn, excuse-moi, mais je suis Dieu, et tu peux pas t'approcher comme ça de moi. Essaye de comprendre, je suis un Dieu saint, tu es séparé de ma gloire, mais je t'aime parce que je t'ai créé, je t'ai donné le souffle de vie, et mon désir c'est que tu reviennes à moi, mais pas n'importe comment. Il y a une manière de s'approcher du Dieu trois fois saint. Ça va pas comme ça, Caïn. Tu ne peux pas entrer dans ma sainte présence comme ça. Et puis il y a la deuxième bonne nouvelle, donc un père qui sait parler à son enfant. Puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il va mettre à côté de lui un frère. Waouh ! Moi, j'ai pas eu de frère, j'ai une sœur, mais j'ai pas eu de frère. Mais il a un frère à côté de lui, Abel. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abel ? Il a fait juste. Il a fait comme il faut. Et ce n'est pas compliqué, il a fait juste. Son offrande sanglante a été agréée par Dieu. C'est la clé. C'est la clé, pas seulement pour lui, mais pour toute l'humanité. Un sacrifice sanglant, parce qu'il n'y a pas plus précieux que le sang. Des millions de dollars ne peuvent pas remplacer le sang. Ça, c'est aussi un concept qui nous échappe parfois. Pourquoi ce Dieu d'amour demande le sang, mais il n'y a pas plus précieux aux yeux de Dieu que le sang ? Parce que le sang, c'est la vie. Et on comprend pourquoi après Jésus a donné sa vie. Et pas seulement des bons conseils. Il aurait pu venir avec des millions de dollars et puis payer, et puis voilà, c'est bon. Hein? Combien ça coûte le péché ? Ah, 600 millions de dollars. Non. Il va donner sa vie, le plus précieux de ce qu'il a. Son sang va couler pour nous. Comprenez ? Donc, Abel fait juste. Et Caïn aurait pu s'en inspirer. Être reconnaissant parce qu'il a un frère qui a fait juste. Il aurait pu dire, « Ouais, frangin, super! Montre-moi comment ça marche. Pourquoi est-ce que Dieu a agréé ton offrande et pas la mienne? Explique-moi comment je peux aussi faire juste. C'est quoi la différence entre un tas de légumes et un agneau immolé? » On se pose des bonnes questions des fois en tant qu'être humain. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi ce moyen-là? Bon, ok, je ne comprends pas tout, mais si Dieu a agréé ton sacrifice, je vais faire la même chose que toi. Je vais faire juste. Et Dieu posera un regard favorable sur mon offrande. Et puis, voilà, le problème aurait été résolu. Ben non. Caïn, il faut endurcir, n'est-ce pas, son cœur, son visage, porter le masque. C'est incroyable comme l'être humain peut réagir parfois. Et Caïn avait tous les atouts en main. Tout pour réussir. Un Dieu qui l'enseigne. Un frère qui lui montre la marche à suivre. Il avait tout. Et malgré cela, il va laisser le démon entrer et le conduire à tuer son frère. Alors je termine. La troisième bonne nouvelle dans ce récit, c'est que Dieu nous donne l'antidote. Aucun scientifique, aucun homme politique aussi puissant puisse-t-il être, n'a trouvé l'antidote au péché. Et dans ce récit, nous découvrons cet antidote. Tu peux t'approcher de moi au travers d'un sacrifice sanglant. Et je peux te donner la capacité de dominer le péché. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce mot? Quand on utilise le mot dominer, on sait ce que ça veut dire, n'est-ce pas, en général? Quand une équipe se fait dominer, c'est qu'elle a perdu. Hein? Quand un joueur se fait dominer, et là, Dieu nous dit, tout au début de l'histoire de l'humanité, tout au début de ton histoire à toi, parce qu'elle est unique, ton histoire, chacun, on recommence. Chacun, on passe par la case Genèse 4. Alors, on peut sauter par-dessus ou on peut s'y arrêter et se dire, waouh, attends là. Là, il y a une clé. Je peux dominer le péché, moi, qui suis un pécheur. Ça vous fait du bien, ça? Un peu, hein? Caïn aurait dû sauter sur l'occasion. Quoi, tu dis que je peux dominer le péché, moi? Waouh, ça m'intéresse. Vas-y, explique-moi. Et c'est pourquoi Jésus dira plus tard, « Celui qui garde ma parole et qui m'aime moi et le Père, nous ferons notre demeure en lui. Vous vous rendez compte? Il y a une corrélation entre ces deux passages qui est extraordinaire. Il suffit que j'aime la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dit. Parce qu'on en entend des choses tout au long de la semaine, tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on en entend des choses? Mais si je m'arrête à ce que Dieu dit, quelque chose d'incroyable va se passer en moi. Je vais pouvoir compter sur la présence du Père et sur la présence du frère, Jésus, qui est mon frère aîné. Et je peux compter sur ses conseils, je peux compter sur sa présence, ce que Caïn aurait pu faire aussi. Et quelques siècles plus tard, Jésus dira, « Mais demandez et vous recevrez. Dieu sait donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Si tu ne demandes rien, tu auras beaucoup de problèmes avec le péché. Par contre, si tu demandes à Dieu, tu vas commencer à apprendre à dominer le péché. Et tu vas pouvoir avancer, évoluer dans ta vie. Caïn n'a rien demandé. Et le péché va accomplir sa basse besogne. Et ça sera, hélas, le triste sort de toute l'humanité. On n'apprend rien du passé. On n'apprend rien du passé. Tellement l'orgueil, tellement la présence du péché est là, qu'on ne sait plus demander à Dieu. On n'a plus l'humilité de demander à Dieu. Alors je résume. Le péché est une réalité. Regarde-le en face. C'est le plus terrible fléau auquel nous ayons à faire face. Nous y sommes tous confrontés. Tu es confronté, je suis confronté. Nous ne sommes pas seuls face à ce fléau. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Le Père et le Fils, notre frère bien-aimé, sont à nos côtés pour nous montrer la marche à suivre. Oui, nous pouvons apprendre à dominer le péché. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans les messages suivants, en écoutant ce que le Père nous dit, en regardant comment notre frère Jésus s'y est pris pour que son offrande, pour que sa vie soit agréée par Dieu. Quand Dieu dit « Je prends plaisir en toi, hein, je prends plaisir en Christ », c'est un lieu de réjouissance, j'ai pas le mot, pour le Père de trouver une vie dans laquelle il a la liberté de dire des choses. Il a la liberté de faire des choses. Il a la liberté d'entraîner Jésus dans ce qu'il a envie de faire. Imaginez si c'est ta vie. Imagine-toi si c'est ta vie. Voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et c'est ce que Dieu aimerait faire. Alors, dans les prochains messages, on va essayer de voir comment faire pour dominer le péché. Ça vous intéresse? Certainement, hein. Comme je l'ai dit, on va essayer d'aborder ce sujet en profondeur parce qu'il nous concerne en profondeur. Mais sur la base de ce message, nous voulons croire que le Père et le Fils seront avec nous, sans compter le Saint-Esprit, bien entendu, et nous serons en Christ plus que vainqueurs. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est tellement claire, qui est tellement simple. Pardonne-nous de la tordre si souvent, de la rendre compliquée. Pardonne-nous parce que, au lieu d'être à ton écoute et de recevoir humblement ce que tu as à nous dire, on se fait son propre petit évangile, on se fait sa propre petite vie. Et, Seigneur, si souvent on passe à côté de la cible, on pêche et on t'attriste. Eh bien, ce matin, nous voulons, Seigneur, entrer avec joie dans Genèse 4. Et on veut te demander de nous apprendre à dominer le péché. Merci parce que tu as d'autres clés à nous donner. Merci parce que tu as d'autres paroles à nous révéler, qui vont nous rendre libres, qui vont nous rendre capables de relever ce défi. Seigneur, on ne peut pas changer le monde, certainement pas, mais oui, on peut travailler au changement de notre vie avec toi, et nous voulons nous en réjouir. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci, Jésus.